Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. Cette saison encore, je vais tenter de relier les films par un fil rouge qui pourra être tout et n'importe quoi. Et on commence dès ce mois-ci avec un épisode spécial Kirk Douglas. Si vous me suivez sur les réseaux, Instagram et Letterboxd en tête, vous savez que Kirk Douglas est un acteur que j'aime particulièrement. Avec une voix inimitable, une physicalité imposante et une plastique hors du commun, il a réussi à se faire une place importante au sein d'un système qui était pourtant à des kilomètres de ses origines. Issu d'une famille de 8 enfants dont il était le seul garçon, Isur Danielovitch, de son vrai nom, n'a pas beaucoup l'occasion de se frotter aux arts au début de sa vie. Les moyens sont plus que limités dans la famille et les enfants ne mangent pas toujours à leur faim, tandis que le père dépense plus souvent qu'à son tour l'argent difficilement gagné au bar du coin en se saoulant au torboyau. Concrètement, celui qui ne s'appelle pas encore Kirk Douglas passe son enfance dans un coin paumé du New Jersey à aider son père à récupérer du métal qu'il entasse dans la cour de la maison, que l'on pourrait plutôt appeler une chaumière, en espérant le revendre un peu plus cher et ainsi se faire une très modeste marge. Ce n'est qu'à la faveur d'une rencontre avec une enseignante en littérature qu'il va dans un premier temps découvrir la poésie, puis, petit à petit, poussé par des mentors plus ou moins engagés à ses côtés, faire ses études et prendre part à des pièces de théâtre. Le cinéma n'existe alors absolument pas et il n'est même pas envisageable d'en faire. Sa détermination absolue à être un artiste vont petit à petit transformer Isur en Kirk et Kirk en l'une des plus grandes stars que le cinéma ait connues. Sa trajectoire est celle d'un météore qui entend pousser qui ou quoi que ce soit qui se tienne entre lui et sa réussite, tout poussé qu'il était par l'envie de fuir ses origines modestes. Cette détermination, on la retrouve d'ailleurs dans son jeu. C'est cette physicalité dont je parlais et qui le rend magnétique. Il peut la mettre en exergue ou bien la gommer, mais c'est toujours ce qui fait que Kirk est Kirk. Et c'est aussi ce qui a fait de lui un des acteurs les plus importants de sa génération. Évidemment, les années 50 ont été un terrain de jeu formidable pour lui puisqu'il a su se glisser sans aucun problème dans la peau des hommes que l'on cherchait à mettre à l'écran à cette époque. Homme à femme, son autobiographie s'étend hélas très largement là-dessus, aux grandes dames de qui venait chercher des anecdotes de tournage ou bien des points de vue sur l'industrie du cinéma, champion de lutte, grand communicant, très au fait de ce qui différencie un acteur d'une star, et inlassable défenseur de sa propre cause, ce qui lui a valu d'ailleurs une réputation d'acteur difficile, il a réussi à la force du poignet à s'imposer dans un monde qui n'était pas le sien, et de quelle manière ? C'est aussi ce qui fera de lui un personnage moins prisé dans les décennies qui suivront. Les années 60 seront modérément plus compliquées, dans une période où Hollywood se questionne et observe avec crainte le monde qui se dessine, et surtout dans les années 70, où le mâle dominant tend à laisser place à des physiques plus inhabituelles, avec des jeux plus intériorisés et torturés. Mais pendant les années 50, peu d'acteurs pouvaient rivaliser avec Kirk, sa verve et son incroyable présence. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur cette décennie précisément. De toute façon, je ne me limiterai pas à vous parler de 4 films parce que la carrière de Kirk Douglas ne peut bien évidemment pas se limiter à 4 œuvres, mais disons que je vais vous parler de plusieurs films en me concentrant sur 4 en particulier qui sont plus facilement disponibles que les autres. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Le gouffre aux chimères de Billy Wilder, durée 1h51. Chuck Tatum, un journaliste sans foi ni loi, prêt à tout pour obtenir un scoop, est enfermé quelque part en Arizona après avoir perdu plusieurs fois son poste dans des publications de haut vol. Alors qu'il se rend à un énième événement sans conséquence, il tombe par hasard sur l'histoire qui pourrait bien le remettre sur les rails. Alors, en 1951, la carrière de Douglas est lancée. Après une première expérience à la Paramount, avec L'Emprise du Crime, un rôle qu'il doit d'ailleurs à son ami Lorraine Bacall, qui avait dû voir en lui la star qu'il pouvait devenir et qui avait glissé son nom au dirigeant de la Paramount, Douglas enchaîne les productions dans lesquelles il joue souvent les antagonistes ou des personnages violents. De notable, il y a quand même en 1947 « La griffe du passé » de Jacques Tourneur, un film noir dans lequel il interprète un mafieux particulièrement vicieux et très doucereux, avec toujours cette violence enfouie qui menace de ressortir à n'importe quel moment. Face à lui, on retrouve un Robert Mitchum en détective privé fataliste. Puis, en 1949, c'est « La consécration » avec le rôle principal de Champion, film dans lequel il interprète un boxeur prêt à tout pour réussir. Là encore, c'est ce film et ce rôle qui le propulse dans une autre galaxie, celle des stars. Avec un risque sous-jacent, celui d'être à jamais pour le public un violent, voire un marginal. C'est la sortie peu de temps après de Chaîne conjugale qui viendra remettre les compteurs à zéro. Réalisé par Joseph Mankiewicz, le film met en scène un Kirk Douglas en professeur de littérature aimant et dévoué, sans une once de méchanceté. C'est la première collaboration avec le réalisateur, la suivante se fera près de 20 ans plus tard dans un autre monde. C'est donc avec une aura de star que Douglas collabore avec Billy Wilder, qui sort lui-même d'un grand succès avec Sunset Boulevard, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode 6 de la saison 1 de Sinécure. Ensemble, les deux hommes vont aborder le drame avec un propos malheureusement encore d'actualité sur la société du divertissement, ou quand le divertissement prend le pas sur le journalisme.
Hey, what are you doing?
Taking your picture.
What for?
I'm gonna put it in the paper.
What kind of paper?
In the newspaper in Albuquerque.
My picture?
Certainly.
Honest?
Everybody wants to see how you look. And I'm gonna write a story. They want to know all about you. They'll be pulling for you.
How do you like that? Me in the paper.
Let's take another one, Leo.
Well, let me wipe my face first.
Hold it.
And don't say anything about those Indian spirits. I don't want anybody to think I'm scared.
Don't worry, Leo. I'm your pal.
Sa modernité a plu partout, sauf aux États-Unis. Il faut croire que nul n'est prophète en son pays. Le titre original, Ace in the Hole, y est d'après Douglas pour quelque chose, vu qu'il pourrait être interprété par le public comme un jeu de mots graveleux sur l'insulte asshole. Toujours est-il que le studio choisit de changer le titre dans l'espoir d'attirer plus de spectateurs sans que cela ne fonctionne. Cet échec, la Paramount la fera payer à prix fort à Wilder qui, malgré le succès de son film suivant, Stalag 17, devra rembourser l'argent perdu pendant de longues années, notamment en ne touchant pas de sous avec Stalag 17. Pour la petite histoire, Douglas a refusé de collaborer à nouveau avec Wilder sur ce film malgré leur bonne entente. C'est William Holden qui a eu le rôle sur Stalag 17 et il a gagné cette année-là l'Oscar du meilleur acteur. Douglas en a été très peiné. Si le propos du gouffre chimère est moderne, c'est clairement la prestation de Douglas qui porte tout le film et qui lui donne cette aspérité, cette dureté. Son personnage est révoltant et c'est une fois de plus grâce à sa violence rentrée et à son interprétation fantastique qu'on bouillonne en tant que spectateurice et qu'on se demande jusqu'où Chuck Tatum, son personnage, sera prêt à aller. Autour de lui, c'est tout le capitalisme déjà galopant qui se structure et que chacun tente, tant bien que mal, d'escroquer quelques dollars au chaland qui n'est pas une victime, mais bien un agent actif du cirque qui s'organise autour du drame qui se joue. Une vision du monde plutôt noire, donc, pour l'époque, et que les États-Unis n'étaient pas prêts à accepter sans doute au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Si le personnage de Douglas est bien un dur tel que le cinéma en a créé dans les 50s, le sujet pourrait tout à fait être transposé dans les années 60, voire 70, où l'heure n'était plus à l'autocongratulation de l'après-guerre, mais bien au questionnement et à la remise en cause de bonnes vieilles valeurs WASP. Le gouffre aux chimères lève en quelque sorte le voile sur le cynisme au cœur du système qui nous régit, sa capacité à faire feu de tout bois et, surtout, son exploitation de la misère d'autrui et sa capacité à révéler en nous ce qu'il y a de noir et de pire. À bien y réfléchir, il est presque étonnant qu'il ait eu du succès n'importe où. Si vous aimez les films à message qui pourraient avoir été écrits il y a 10 ans, les personnages superbement méprisables et les cirques médiatiques, alors Le Gouffre aux Chimères est fait pour vous. Le film est disponible en streaming sur Canal+. En 1951, on pouvait voir dans les salles obscures françaises La Flèche et le Flambeau de Jacques Tourneur, Un grand patron d'Yves Ciampi et Messaline de Carmine Gallo. Les Ensorcelés de Vincente Minnelli duraient 1h58. Georgia Lorison était une actrice en devenir, une alcoolique déprimée qui manquait de confiance en elle. Fred Amiel, un assistant qui n'avait pas encore eu sa chance pour percer et qui rêvait de devenir réalisateur. James Lee Bartlow, un écrivain et un homme marié heureux qui ne cherchait pas particulièrement à venir s'installer à Hollywood. Tous trois ont croisé la route du producteur tyrannique et colérique Jonathan Shields et leur vie en a été changée à jamais. Lorsqu'ils sont sollicités à nouveau par Shields des années après, ils devront décider si oui ou non ils sont disposés à l'aider à revenir sur le devant de la scène. Quelle joie d'enfin pouvoir vous parler de ce film qui reste à ce jour, plus de 2 ans après mon premier visionnage, l'un de mes favoris. En introduction de cet épisode, je vous ai parlé de Kirk Douglas comme d'un acteur parfait pour les années 50. Ce film en est l'illustration parfaite. Il habite le rôle de Jonathan Shields comme peu d'autres acteurs auraient pu le faire. Sa stature, sa physicalité, un mot qui est déjà revenu de nombreuses fois et qui continuera de le faire dans cet épisode, et le feu qui l'anime sont au cœur même de son interprétation. Il ne joue pas Jonathan Shields, il est Jonathan Shields. Entre Le Gouffre aux Chimères et ce film, Douglas a tourné trois autres films. Parmi ces trois films, deux sont notables. Detective Story de William Wyler, qui reprend une pièce de théâtre à succès et qui met en scène Kirk Douglas dans un rôle qui lui va comme un gant, celui d'un officier de police incorruptible et qui pense vivre une vie exemplaire, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que quelque chose en lui et autour de lui ne tourne pas rond. C'est un huis clos qui fonctionne bien, mais ce n'est pas le meilleur film de sa filmographie. Ça n'en reste pas moins une collaboration avec un réalisateur qui allait marquer l'histoire du 7e art. Puis, La Vallée des Géants, qui est un film que Douglas lui-même qualifie dans son autobiographie de mauvais. Après la Paramount, il accepte un contrat à la Warner Brothers qui ne lui convient plus. Épris d'une indépendance soudaine, qui a certainement beaucoup à voir avec ses nombreuses frasques sentimentales, il décide de rompre le contrat en travaillant gratuitement. Le résultat est ce film décevant, mais qui a l'avantage de lui rendre sa liberté. Liberté qu'il emploie pour aller tourner avec Howard Hawks, un autre géant, La Captive aux yeux clairs. Douglas n'a pas fait tellement de westerns que ça, il en a souvent profité pour tourner avec des réalisateurs intéressants néanmoins. Malheureusement, hormis cette collaboration au sommet, je ne sais pas grand chose de plus de ce film qui est sur ma liste de films à voir et dont Douglas sortira lessivé avec une pneumonie due à une scène de nage assez physique qui a lieu en studio face à de puissantes souffleries. C'est au sortir de ce film et de l'hôpital que lui est proposé le rôle de Jonathan Shields qui était au début destiné à Clark Gable, ni plus ni moins. De son côté, le réalisateur, Vincente Minnelli, sort d'une période un peu plus faste. Après l'échec de Pirate en 1948, puis celui assez prévisible de Madame Bovary en 1949, il enchaîne avec Le Père de la Mariée en 1950, puis la suite en 1951. Les deux films seront d'ailleurs remakés des années après avec Steve Martin dans le rôle tenu par Spencer Tracy dans les originaux. Puis il revient enfin à la comédie musicale, genre avec lequel il s'est fait connaître initialement, en réalisant Un Américain à Paris en 1951. Il peut se permettre à nouveau de faire prendre des risques à la Metro-Goldwyn-Mayer, studio qui va mettre le projet sur pied tout en ayant un peu peur du résultat. Il faut dire que Jonathan Shields ressemble à s'y méprendre à un certain nombre de nababs d'Hollywood, des producteurs tous plus égocentriques les uns que les autres, qui pensent tous que le film parle d'eux. David O. Selznick, le producteur derrière Autant on emporte le vent notamment, Daryl Zanuck, le producteur emblématique de la Fox, et qui s'exilera en France au début des années 60, ou encore Orson Welles et Val Lewton, autres producteurs passés par la MGM et RKO sont aux aguets. Tout ce beau monde a très peur que l'image qu'il soit donnée d'eux par Kirk Douglas soit peu reluisante, Selznick allant jusqu'à faire voir le film par ses avocats pour voir si des éléments étaient susceptibles de provoquer un procès. Tous ces producteurs avaient en un sens raison puisque Jonathan Shields emprunte un peu à chacun d'eux et ce qu'il donne à voir est effectivement peu reluisant. Menteur, égoïste, avec un complexe de supériorité défiant toute concurrence, Shields est capable de changements d'humeur stupéfiants et tout ça afin d'obtenir une seule chose, ce qu'il veut.
You call that directing? That is what I've been calling it for 32 years.
Why, there are values and dimensions in that scene you haven't begun to hit.
Perhaps they're not the values and dimensions I wish to hit. I could make this scene a climax. I could make every scene in this picture a climax. If I did, I would be a bad director. And I like to think of myself as one of the best. A picture or climaxes is like a necklace without a string, it falls apart. You must build to your big moment, and sometimes you must build slowly.
Look, when I want to lecture on the aesthetics of motion pictures, I'll ask for it.
C'est un personnage qui n'est pas particulièrement gratifiant, mais le mérite de Douglas est de réussir à nous vendre un ensorceleur, d'où le titre français, qui peu importe ses trahisons, serait tout de même capable de nous vendre tout et n'importe quoi. Cependant, si Shields est au centre de l'intrigue, ce n'est pas lui dont le film parle. Parce que Les Ensorcelés est d'abord et avant tout un film sur le cinéma, une ode au 7e art en général et sur l'âge d'or d'Hollywood en particulier. À la fois sa grandeur, son éclat, que Minnelli met parfaitement en scène, mais aussi et surtout ses dessous, la lâcheté qui est en son centre et les manipulations qui en sont la force motrice. C'est un film absolument grandiose où Minnelli révèle la flamboyance de sa mise en scène, son grand talent pour diriger des stars et pour les sublimer, au premier titre desquels Lana Turner et Gloria Graham, en plus de Kirk Douglas bien évidemment, et bien sûr son appétit pour des histoires qui racontent Hollywood et le cinéma. Appétit qui sera confirmé 10 ans plus tard avec Deux semaines ailleurs, où le même Kirk Douglas transportera son spleen à Rome et dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 8 de la saison 1 de Cinécure. Si vous aimez les films qui parlent de cinéma, les personnages qui ne sont ni blancs ni noirs mais qui évoluent avec des nuances de gris et les films lumineux, alors vous devez absolument voir Les Ensorcelés. Il est disponible sur la Cinéthèque pour la somme de 2,99€. En 1952, en France, on pouvait aller voir au cinéma Le Fruit défendu d'Henri Verneuil, L'Homme tranquille de John Ford et Anna d'Alberto Lattuada. 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer durait 2h07. Coincé à San Francisco, le professeur Aronnax et son assistant Conseil sont finalement embarqués sur une expédition dont le but est de trouver le monstre marin dont tout le monde parle et qui empêche la bonne circulation des vaisseaux sur les océans. Ils sont accompagnés par Ned Land, un harponneur têtu et remuant. Alors que l'expédition touche à sa fin et que son capitaine ne peut conclure qu'à l'absence de monstre, le navire est attaqué et les hommes à bord découvrent quelque chose qui va changer leur vie à jamais. Après son interprétation fantastique dans Les Ensorcelés, Douglas va connaître un petit passage à vide qui correspond à la période où il s'exile en Europe sur les mauvais conseils de son comptable et, pensait-il, ami Sam Norton. Celui-ci se révélera être en réalité un arnaqueur de grand talent qui parviendra à lui soutirer jusqu'à 750 000 dollars, à l'époque ça représente une somme considérable, somme que Douglas doit d'ailleurs rembourser au fisc. Heureusement pour lui, il s'est marié avec une femme déterminée qui est parvenue à faire condamner Norton, lequel remboursera cette somme jusqu'au dernier centime. Mais revenons à nos moutons et à l'année 1954. À ce moment-là de sa carrière, Douglas est persuadé qu'il pourra économiser de l'argent en tournant en Europe. Le voilà donc parti pour faire quelques films parfaitement inconséquents, au milieu desquels se trouvera donc 20 milieux sous les mers. Peu de choses sont rapportées par l'acteur sur le tournage, hormis une fois de plus ses exploits sexuels pendant et autour de la production. Cependant, 20 milieux sous les mers est déjà en soi exceptionnel puisqu'il s'agit du premier film live action produit par Disney. La légende veut d'ailleurs que lorsque Walt Disney apprend le cachet demandé par Kirk Douglas, il s'enquiert de savoir si c'est pour un contrat de 6 films. Pour mener ce projet d'ampleur à bien, c'est Richard Fleischer qui est retenu. Ce n'est pas sans ironie quand on sait que le réalisateur était le fils de Max Fleischer, un animateur qui pendant des années a été un féroce compétiteur de Disney en développant notamment son propre studio d'animation. Son fils Richard, vous le connaissez déjà puisque je vous ai recommandé Les flics ne dorment pas la nuit dans l'épisode 11 de la saison 1, ainsi que son bouquin Survivre à Hollywood lors de l'épisode 14 de la même saison, épisode spécial Livre de cinéma. Dans cet ouvrage, justement, le réalisateur revient en détail sur sa collaboration avec Kirk Douglas, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble sur deux films. 20 milieux sous les mers donc, et The Vikings, sorti en 1958 avec Tony Curtis, et qui se veut fresque épique et très représentative de la réalité des Vikings. Je n'ai pour ma part pas particulièrement été touché par ce film qui a, je trouve, assez mal vieilli. Mais c'est lorsque Fleischer parle de 20 milieux sous les mers qu'on en apprend plus sur ce filou de Kirk Douglas qui, paraît-il, ne respectait pas vraiment ses marques et avait toujours quelque chose à dire sur son rôle, toujours dans le but, bien sûr, d'être littéralement au centre de l'écran. Mon avis, c'est que Douglas a voulu utiliser le film comme un véhicule à son service pour devenir une star aussi auprès des familles. Si Disney n'était pas la machine, que c'est maintenant, il est clair que le film allait s'adresser au plus grand nombre et donc le calcul de Douglas n'était pas bête du tout. Mais ça s'est révélé être un vrai casse-tête pour le réalisateur qui a dû gérer l'ego surdimensionné de la star. Et il faut bien dire que Douglas parvient à truster le film en étant au centre de la scène d'action du film et en allant jusqu'à danser et pousser la chansonnette.
Your clothes are being dried and will be returned to you shortly. In the meantime, avail yourselves of my humble hospitality.
Humble, you call it? Well, you do right well for yourself, mate.
You may call me Captain Nemo.
I'd like to express our gratitude, Captain. We are grateful to be alive.
I want none of your gratitude. You're all on the strictest probation. And I'd advise you not to attempt escape. You understand your position?
Well, I don't know, Captain. Prisoner has a right to escape, hasn't he?
That is correct, sir.
And a guest don't need to. So I guess that makes us a little bit of both, huh?
Consider that a fortunate compromise then, Mr. Land. I tolerate no guests aboard the Nautilus, and you already know the fate of prisoners.
Au-delà de ça, il me semble important, comme toujours sur Sinécure d'ailleurs, de recontextualiser le film. Nous sommes en 1954, les discours conscients sur les minorités ethniques et l'égalité homme-femme relèvent de la fiction, et on nage dans un patriarcat d'aspect bonhomme, mais en réalité plutôt féroce. Rien d'étonnant donc que les habitants noirs du Nil soient considérés comme des sauvages et des sous-hommes, aucune surprise non plus sur l'absence totale de femmes dans l'ensemble du film, sauf les deux prostituées du début. Une fois qu'on a, difficilement, je le conçois, mis ça de côté, reste un film d'aventure absolument éblouissant. D'une manière générale, le film entier tient dans un équilibre précaire où se mêlent aventure pour enfants et propos pacifistes, et même anti-nucléaires. Kirk y partage l'affiche avec James Mason et les deux acteurs s'en donnent à cœur joie, chacun dans une veine différente mais relativement complémentaire. Mason en capitaine intellectuel et torturé, Douglas en marin spontané et physique. Et au centre du film, au cœur de cet équilibre précaire, se trouve la vraie star du film, le Nautilus. En le voyant à nouveau, en préparation de cet épisode, j'ai été heureux de constater que la fascination que le vaisseau exerçait sur leur petit Charles-Édouard devant la VHS du film Chez sa grand-mère est intacte. Que celui-ci apparaisse en tant que monstre marin ou bien que l'on se trouve dans ses entrailles, quelque chose se passe indéniablement et on est transporté dans un monde incroyable, celui de Jules Verne, où science et fantastique se mélangent pour laisser place aux songes les plus fous. Alors oui, comme je l'ai dit plus tôt, il faut recontextualiser, certaines scènes font grincer des dents, tout n'est pas sans aspérité, et si le sous-marin vieillit plutôt bien, certaines scènes ne passent pas vraiment l'épreuve du temps. Mais si vous êtes capable d'outrepasser ça, et j'entends que ce n'est pas simple, alors vous trouverez certaines pépites, comme par exemple l'affrontement entre la pieuvre géante et Kirk le harponneur. Si vous aimez les grosses productions Disney d'antan, les décors somptueux du temps où le CGI n'existait pas et les performances un peu cabotines, alors 20 milieux sous les mers est fait pour vous. Il est disponible sur Disney Plus en streaming. Et en 1954 en France, on pouvait voir Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, Touchez pas au Grisby de Jacques Becker et Vacances romaines de William Wyler. Règlement de compte à Hockey Choral de John Sturges durait 2h02. Dans l'Ouest américain, un affrontement entre un Marshall et un gang de hors-la-loi tourne au règlement de compte. Nous retrouvons Kirk Douglas 3 ans après ses frasques de harponneur dans les 7 mers du monde entier. En quelques années, l'acteur est devenu un incontournable et débarrassé de Sam Norton et de son influence négative, il a enchaîné les films importants et ceux plus négligeables. Deux films me semblent ressortir de cette période. En premier lieu, un petit western sans grande prétention mais qui fonctionne terriblement bien, L'homme sans étoile. Kirk Douglas y joue un vagabond dont le seul but est de vivre pleinement sa vie sans but précis. De malentendu en événement fortuit, il va se retrouver à travailler pour Reed Bowman, une femme qui gère le plus grand troupeau de bêtes de la région. Mais très vite, ses fantômes vont revenir le hanter. Douglas y est au top de sa forme physique, il est aussi très juste et très heureux d'être la star du film qui a le mérite de remettre King Vidor, le réalisateur, sur le devant de la scène. En second lieu, on trouve bien entendu La vie de Vincent Van Gogh, où il interprète Vincent Van Gogh, film qui le réunit avec Vincente Minnelli et qui est porté par la Metro-Goldwyn-Mayer comme Les Ensorcelés. Film d'une grande importance, d'une grande répercussion et qui a fait prendre conscience à Kirk Douglas du danger de la méthode, cette technique qui veut que les acteurs s'oublient complètement au profit du personnage qu'ils interprètent. Complètement pris dans son rôle, il mettra un certain temps à s'en sortir et souffrira pendant quelques temps d'avoir habité cet éprouvant personnage. Malheureusement, le film est aujourd'hui difficilement trouvable en VOD et n'existe pour le moment pas en streaming. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas sélectionné pour cet épisode. Je me suis donc tout naturellement tourné vers Règlement de compte à Hockey Choral, qui est non seulement un western, catégorie à laquelle Douglas a finalement, je le disais, assez peu participé, et qui pourtant lui seyait bien, mais aussi parce que c'est un peu LE western idéal. Le film relate le règlement de compte ultra connu aux États-Unis qui a opposé Wyatt Earp, ses deux frères et Doc Holliday au gang des Clanton Cowboys. Ce règlement de compte, qui devait devenir par la suite le plus connu de l'histoire de l'Ouest, infuse absolument toute la culture cinématographique du western et a même été l'objet de nombreux films. J'en ai compté 9, mais je suis sûr que la télé a dû en produire au moins autant et qu'il y en avait déjà 4 existants avant que John Sturges ne s'attaque à son tour à la légende.
Why did you come?
If I stick around long enough, sooner or later you've got to put your head in a noose. I'm going to bail you out. I've only got one debt in this world, and I don't like owing it to you.
You don't owe me a thing. I've never needed anybody in my life, and I sure don't need Doc Holliday.
You're pretty positive about that.
As far as I'm concerned, you can get on your horse and keep riding.
No, thanks. I think I'll stay. You know, Wyatt, you and I are pretty much alike, actually. Both of us live with a gun. The only difference is that badge. What's the matter, preacher? Don't you like being preached at?
Shut up and go to sleep.
Est-ce que c'est le meilleur film sur Tombstone et le règlement de compte à Hockey Choral? Non. Mais il y a, à mon sens, deux raisons qui devraient vous pousser à tout de même voir ce film. La première, c'est bien entendu que l'affiche est partagée par Douglas et Lancaster. Deux monuments d'Hollywood, amis dans la vie, qui créent à l'écran une alchimie absolument fantastique. La deuxième, c'est que le film, dont le scénario ne plaisait pourtant pas vraiment ni à Lancaster ni à Douglas, choisit de raconter surtout l'amitié qui unit Wyatt Earp, homme de loi au moment des faits, mais à la vie beaucoup plus nuancée que ça, et Doc Holliday. Ce dernier, interprété par Kirk Douglas, est un personnage encore plus étrange que celui qui l'accompagne. Chirurgien-dentiste qui a perdu toute sa clientèle après avoir contracté la tuberculose, Holliday est devenu un joueur de poker professionnel et a vécu une vie de relative dépravation jusqu'à sa mort, refusant même de se soigner convenablement. L'amitié entre ces deux hommes n'était en réalité pas tellement étonnante, mais c'est la représentation que la culture populaire se fait de Wyatt Earp, dont la droiture, pourtant toute relative, semble avoir traversé les siècles, qui ne correspond pas à l'image que celle-ci a de Doc Holliday. Le film prend d'ailleurs bien soin, pour des raisons évidentes de récit, de séparer les deux hommes et souvent de les mettre face à face. Wyatt Earp, le raisonnable, et Doc Holliday, le fougueux. Mais ce que Sturges et le script écrit par Leon Uris et George Scullin réussissent très bien, c'est à les réunir petit à petit en divisant intelligemment le film en trois actes, dans trois lieux différents et trois rencontres significatives. Lors de sa sortie, le long métrage sera plutôt méprisé par les fans hardcore de l'histoire d'Hockey Choral, en raison notamment de l'exagération autour du règlement de compte. Celui-ci aurait duré 30 secondes dans la vie réelle et il dure à l'écran plus de 5 minutes. Mais, une fois de plus, le film convoque un certain nombre de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité, pour notre plus grand bonheur, à commencer par l'incroyable charisme de ses deux protagonistes, Lancaster et Douglas. Et puis, il y a une troisième raison qui fait qu'en tant que fan de Kirk Douglas, je suis heureux de partager ce film avec vous aujourd'hui. Wyatt Earp, vous l'aurez compris, c'est un bout de l'histoire de l'Ouest américain, et donc des États-Unis. On sait maintenant que Earp, qui a fini sa vie à Los Angeles, a rencontré de nombreuses personnalités liées au milieu du cinéma pour raconter son histoire, faire une sorte de lobbying autour de sa légende pour mieux la vendre et ainsi devenir immortel. Il a même rencontré un jeune acteur de 21 ans nommé Marion Robert Morrison et que le monde devait connaître des années plus tard sous le pseudonyme de John Wayne. Mais il n'empêche que cela a fonctionné et que quand on raconte l'histoire de Wyatt Earp, ou bien celle du règlement de compte à Hockey Choral, on raconte un morceau des États-Unis. Et je trouve qu'en moins d'une décennie, arriver à s'inscrire dans cet imaginaire collectif, dans cette histoire avec un grand H, c'est une belle réussite pour celui dont les parents étaient des immigrés sans le sou, parlant un anglais approximatif. Cela montre le destin hors du commun de Douglas, sa détermination à être plus qu'un simple acteur. La même année, l'acteur devient producteur, avec la société qu'il nomme Brina, du prénom de sa mère, et avec cette société, il prendra encore plus d'ampleur et jouera, toujours en 1957, dans Les Sentiers de la Gloire, à mon sens l'un des plus grands films de Kubrick. Puis viendront d'autres films, Last Train from Gun Hill, un autre western sans prétention mais diablement efficace, toujours réalisé par Sturges, puis encore le pinacle de sa carrière et Spartacus. Les années 60 aussi seront jalonnées de grands films et d'autres plus oubliables, mais le fait est qu'en une décennie, Douglas est parvenu à se hisser au top des acteurs à Hollywood. Pas mal pour un petit gars du New Jersey. Si vous aimez les films basés sur les faits réels, les buddy movies à l'ancienne et les affrontements tendus, alors Règlement de compte à Hockey Choral vous plaira. Il est disponible en streaming sur Canal+. En 1957, en France, on pouvait découvrir Le Tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson, Giant de George Stevens et Les Aventures d'Arsène Lupin de Jacques Becker. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai été très heureux de pouvoir partager avec vous mon amour de Kirk Douglas, cet acteur pour moi hors du commun, au parcours atypique et à la présence magnétique, continuera d'égayer mes soirées cinéma, et à n'en pas douter, je découvrirai un film dans très peu de temps que je regretterai amèrement de ne pas avoir pu partager avec vous. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à vous abonner déjà et à noter le podcast 5 étoiles si votre plateforme le permet. Il n'y a rien de mieux pour le référencement. Vous pouvez aussi en parler à vos proches, le cinéma c'est toujours mieux quand c'est partagé. Je vous rappelle aussi que tous les films conseillés ici sont publiés sur une liste Letterboxd dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par Charlie Dorboisselin, c'est moi, pour Vaisseau Hypersensas dont je remercie tous les membres pour leur bienveillance et pour leur patience. Vous pouvez par ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux où j'officie en tant que @charledy, autant sur Instagram que sur Letterboxd. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinécure. En attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !